Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 février 2017 et c'est Clotilde Sey qui vous accompagne aujourd'hui encore pour vous présenter les paractualités du jour avec les titres Accessibilité, l'Université de Montréal reçoit une amende exemplaire. On vous présente un ado, il est aveugle et il relève des défis formidables aussi aujourd'hui. Et paractualité régionale, la Côte-Nord coupe dans des services aux jeunes, mais pourquoi? Mais pour offrir plus de bains dans les CSC. Les CHSLD, je vais finir un jour par le dire correctement. Des Saguenayens en fauteuil roulant veulent faire partie de l'équipe d'athlétisme Canada. Également aujourd'hui à l'émission, le taux d'emploi des personnes handicapées au cœur d'une loi fédérale. Et puis aux États-Unis, les personnes vivant avec un handicap mental pourront posséder des armes à feu. La Chambre a renversé la loi promulguée par M. Obama. Également en entrevue aujourd'hui, je vais m'entretenir en studio, elle est d'ailleurs déjà là, avec Anne Saint-Hilaire, qui est un peu l'ambassadrice de Compostelle en tandem, hein, en partenariat avec la Fondation québécoise du cancer. Et également aujourd'hui à l'émission, l'organisme dont j'ai envie de vous parler, eh bien c'est du RAM, surtout à cause de la semaine de la canne blanche. Et nous recevons Lucie Côté, membre du comité de sensibilisation au sujet de la semaine de la canne blanche du RAM. Alors, l'Université de Montréal reçoit une amende exemplaire. C'est dans une décision perçue comme exemplaire, donc, que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse vient d'ordonner de verser une indemnisation de 10 000 $ à une personne handicapée privée de toilettes adaptées en août 2014 à l'Université de Montréal. On pense que le niveau de dommages accordé est un avertissement aux institutions publiques. L'inaccessibilité pour les personnes handicapées est de moins en moins acceptable, a dit Faux Niemi, directeur du Centre de recherche Action sur les relations raciales. L'incident est survenu à la clinique de vision de l'Université de Montréal. Le plaignant, Omar Lacheb, était venu pour un examen de la vue. Il a constaté que les toilettes étaient hors d'usage. Après avoir tenté de trouver des toilettes accessibles en fauteuil roulant sur 5 étages du bâtiment, il s'est fait dire d'aller aux toilettes des femmes. Il a refusé par crainte de créer un malaise. L'Université de Montréal a fait valoir que l'utilisation des toilettes pour femmes était une solution temporaire en raison de travaux de rénovation au pavillon 6 au 3744 rue Jean-Briand. La commission a jugé que c'est insuffisant et que cela constitue une forme de discrimination envers les personnes handicapées. L'université a jusqu'à vendredi 3 février pour répondre à la décision, sinon la commission portera la cause devant le tribunal des droits de la personne. L'établissement n'a pu indiquer jeudi si elle se pliera à la décision. Un ado aveugle relève des défis formidables. Ce modèle de volonté a déjà plusieurs faits d'armes à son actif et rêve de devenir coureur paralympique. C'est d'après un papier de Stéphanie Gendron qui nous parle de Benjamin Ouellet qui a 16 ans, qui est un véritable modèle de persévérance et de courage. Même s'il ne voit rien ou presque, il a déjà plusieurs faits d'armes. Bambin, c'est un garçon qui a marché dès l'âge de 16 mois, ce qui était considéré comme exceptionnel vu sa condition de quasi-aveugle depuis sa naissance. Il a chaussé des patins et patine depuis l'âge de 3 ans. Il est même devenu champion de patinage artistique. Il a joué au soccer avec un ballon sonore, il a fait du ski accompagné, il a roulé sur un vélo standard, tout en poursuivant un parcours scolaire normal, grâce au braille et à son ordinateur portable. Et en plus, c'est un habile orateur, il a remporté quelques concours d'art de s'exprimer en public. Probablement parce que je ne vois pas la réaction et le regard des autres, je suis moins gênée de parler en avant, a-t-il dit. J'ai aussi une excellente mémoire. Ça aurait été facile, l'a dit son père, de l'amener dans une école spécialisée à Montréal. On y a pensé. Ça aurait été douillé, mais ce n'est pas ça, la vraie vie. Alors, il tire son épingle du jeu, même si tout est plus long, beaucoup plus long pour lui. Sa vie d'adolescent est comparable à celle des autres jeunes de son âge, et même plus, c'est ce qu'il déclare. Il dit que la seule chose que les autres font et qu'il ne peut pas faire, c'est évidemment de jouer aux jeux vidéo. Et encore là, ça risque de changer pour lui parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent pour que les personnes non-voyantes aient accès à des jeux vidéo. Alors, j'ai en face de moi Mme Marianne Bouvette. Bonjour. Non, ça n'est pas Marianne.
Anne Saint-Hilaire.
C'est Anne Saint-Hilaire. Pardon, excusez-moi. Pourquoi j'ai mis ce nom-là? Et je m'en excuse. Mille excuses, Mme Saint-Hilaire. Donc, vous êtes ambassadrice de ce qui s'appelle Compostelle en tandem. Ça ne peut que nous plaire ici, à Canalem. Expliquez-nous, qu'est-ce que Compostelle en tandem?
Compostelle en tandem, c'est un beau projet mis en place. C'est la 8e édition cette année par la Fondation québécoise du cancer, dont j'ai l'honneur d'être ambassadrice. En fait, je suis la fondatrice du Centre La Tienda d'ici à Compostelle et voyagiste Buen Camino sur les chemins de La Tienda. C'est deux entités, finalement, qui vont vraiment très bien ensemble parce qu'on a une cause qui va vers le même sens, qui est de mettre des gens sur le chemin de Compostelle, entre autres, pour se faire vraiment du bien. Parce que Compostelle, c'est un chemin qui... beaucoup de voyageurs qui voyagent autour du monde et qui ont eu la chance de se permettre d'aller faire Compostelle vont le dire, c'est un chemin qui change beaucoup de choses, c'est un chemin de vie. Pourquoi Compostelle fait autant de bien? C'est qu'on devient vraiment en vacances mentales tout en étant en alimentant la sérotonine parce qu'on est dans l'action quotidiennement. C'est une routine différente à tous les jours qui nous permet de justement activer cette sérotonine, l'hormone du bonheur, la dopamine, parce qu'on ne suit que des flèches. On n'a pas d'organisation en tant que telle à faire autre que se lever et marcher, suivre des flèches. Et ça nous permet en même temps, quand on s'en va en Europe ou faire ces chemins-là vers Santiago de Compostela, de changer la routine, de perdre ses repères, d'être en contact avec la différence. Et ça nous fait ouvrir les yeux. Ça nous met dans une énergie énergisante, que je pourrais dire, qui fait qu'on a une introspection fantastique. Ça nous donne une belle pause mentale et physique parce que ça nous réénergise et en même temps, on est en introspection à l'intérieur de soi-même.
Une question comme ça, est-ce qu'on a déjà vu des non-voyants sur le chemin de Compostelle?
Oui, et il y a des belles causes à cet effet-là. Il y a des accompagnateurs, justement, qui sont là avec les non-voyants pour leur permettre de marcher. Des personnes handicapées à mobilité réduite, en fauteuil roulant, peuvent le faire. C'est ouvert à tout le monde.
Mais il y a des chemins difficiles. J'imagine qu'il y a il y a certains tracés, quand on est en fauteuil, qu'il faut certainement éviter.
On va se faire porter. Il y a des gens qui vont se faire porter. Je ne me rappelle pas du terme exact de ce fauteuil-là, mais les gens vont porter la personne pour justement qu'elle
passer
puisse...
Passer ça.
Oui.
Fantastique.
C'est fantastique, oui.
Et vous, Mme Saint-Hilaire, en tant qu'ambassadrice de Compostelle en tandem, là, on parle d'une cause, hein? C'est par rapport au cancer.
Oui.
Parlez-nous de ça, de ce tandem-là. Ce sont deux personnes qui marchent, une personne...
Le mot tandem est porté à penser à ça, effectivement.
Oui, et c'est pas ça.
Et c'est pas tout à fait ça, mais ça l'est en même temps. Dans le fond, tandem voulant dire qu'on s'associe à une personne qui aurait peut-être eu le cancer, qui est décédée du cancer, ou quelqu'un qui, en fait, on peut faire ce chemin-là en ayant malheureusement cette maladie-là, le cancer. Donc, c'est de jumeler une cause avec un bonheur, un bienfait, finalement, d'aller marcher sur ces chemins-là. Quand on est atteint du cancer, si on peut aller avec l'énergie qu'on aura, aller les marcher, ça va nous énergiser. Si on a quelqu'un proche qui est atteint du cancer, bien, je vous le dis, ça énergise au moins l'esprit, le cœur de quand on revient à avoir la possibilité de donner de la joie, de devenir un exemple de bonheur pour soutenir cette personne-là qui a de la misère à vivre, à passer au travers de ça. Et si, bien sûr, on a perdu quelqu'un du cancer, c'est sûr que ça va... nous donner des moments d'introspection pour passer au travers.
Ah, donc là, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez à des gens de venir faire Compostelle?
Oui, exactement. Donc, c'est deux groupes. On part deux semaines s'énergiser. En fait, il y a deux départs, le 19 septembre et le 26 septembre. Et c'est deux groupes qui vont... C'est deux petits groupes, des 12 personnes seulement, qui vont aller marcher dans l'objectif, justement, comme on disait, les causes.
Oui.
Mais la Fondation québécoise du cancer, elle est super importante. Ici au Québec, il y a vraiment quelque chose d'être fier parce que la Fondation, c'est de l'hébergement. Donc, les personnes qui sont en région éloignée, qui ont besoin de soins, ont l'hébergement près des centres hospitaliers pour justement subir les soins ou les personnes accompagnant ces personnes-là atteintes du cancer. C'est une ligne info-cancer. C'est important que quand on vit ça, de ne pas être isolé, de pouvoir en parler. Et en parler avec des personnes expérimentées en oncologie, je vous dis, ça fait un baume. Il faut être capable. J'aime bien dire et j'aime pas le dire, mais il faut être en forme pour être malade. Et quand on est seul, c'est vraiment difficile.
C'est difficile, effectivement.
Alors, la Fondation, c'est ce service-là. C'est essentiel, à mon avis. C'est aussi des programmes de bien-être physique. Donc, il y a la massothérapie, la kinésiologie, plutôt.
Oui.
Et encore là, se faire des petits soins. Tu sais, quand on va bien, on s'offre des petits soins, mais imaginez quand on va pas bien, comment ça peut devenir super important. Et le soutien psychologique. Donc, c'est du jumelage téléphonique avec des gens qui auraient vécu probablement le même cancer. Donc, ça, c'est le fun aussi de pouvoir partager ça avec quelqu'un qui a passé au travers. C'est de l'art-thérapie. Et on le sait, l'art-thérapie, ça nous libère du stress et ça aide aussi à la guérison, c'est certain. C'est des activités et il ne faut surtout pas oublier les personnes, les jeunes de 15-39 ans aussi qui sont atteints de ces maladies-là. La Fondation, c'est tout ça.
C'est tout ça, mais j'en reviens à Compostelle et ce sera ma dernière question. Malheureusement, on aurait pu passer une demi-heure ensemble parce que ça, je suis fascinée complètement par ça. Je ne l'ai jamais fait, puis à chaque fois, je me dis, c'est pour quand.
Ouais.
Mais il y a un aspect financier. Ça veut dire que les gens qui vont payer pour aller faire Compostelle, est-ce que c'est également pour la Fondation?
Exactement. Alors, dans tous les services que je viens de nommer, qui sont majeurs, qui sont essentiels, les marcheurs auront 2 000 $ à ramasser.
2 000 $.
C'est peu à comparer à tout ce que les personnes peuvent obtenir. La Fondation, cette année, a un objectif de 50 000 $. Évidemment, chacun des pas va être fait avec une cause. Alors, et j'aime aussi quand on sait le pourquoi, on trouve le comment. Mm-hmm. Alors là, 2 000 $, il devient comme accessoire.
OK. Mais ça, c'est en dehors des frais du voyage?
Oui. Oui.
Et le frais de, les frais de voyage, c'est à peu près combien, ça?
Ça va, il y a 2 voyages. Alors, c'est 3 002 si on dort en auberge. Ça inclut les billets d'avion et les hébergements.
D'accord.
Et il y a aussi un voyage en hôtel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut aussi dormir. Hein. Si on n'est pas capable de dormir dans une auberge, on peut dormir dans un hôtel.
Oui.
Alors, ça, c'est 4 240.
D'accord.
Tous les détails sont sur le site de Compostelle en tandem.
Voilà.
Et il y a une session d'information à Montréal le 21 février à 19h au Centre Latino de Saint-Compostelle. Et les adresses sont indiquées sur le site.
Oui, parce que si vous êtes en région, il n'y a pas qu'à Montréal. Hein, il va y avoir aussi une séance d'information à Trois-Rivières le 20 février, à Gatineau le 27, à Sherbrooke le 28 et dans la ville de Québec le 7 mars. Donc, j'imagine que si on appelle à la mairie, tout ça, ils vont être au courant de cela.
Ou à Compostelle en tandem.
Ou Compostelle en tandem. Madame Saint-Hilaire, c'est plaisir. Je vous dis, j'aurai encore 10 000 questions à vous poser. Vous qui connaissez bien, je crois, les chemins de Compostelle.
Oui, puis avoir passé au travers d'une petite étape de pré-cancer, je peux vous dire que ça me porte à cœur.
Oui, j'imagine. Merci beaucoup et bravo, Mme Saint-Hilaire.
Plaisir à vous.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Par actualité régionale, des bains à volonté au CHSLD. Alors qu'un CHSLD de la Gaspésie n'a pas donné de bains à ses résidents pendant plusieurs années, la Côte-Nord vient d'instaurer le concept de bains à volonté pour ses aînés. Depuis un mois, les résidents reçoivent au minimum 2 bains par semaine plutôt qu'un, mais la direction a décidé d'aller encore plus loin en offrant les bains à volonté. Les bains à volonté, ce n'est qu'une première étape dans l'amélioration des soins aux aînés, a dit la directrice du soutien à l'autonomie des personnes âgées du 6 Côte-Nord, Diane Benoît. On ne supprimera pas de poste pour ce faire. La beauté de cela, c'est qu'on peut encore économiser en regroupant des services, assure le PDG du 6, Marc Fortin. La direction du 6 Côte-Nord avait promis d'agir après que des inspecteurs du ministère de la Santé eurent accordé en 2016 des codes rouges à 7 des 11 CHSLD de la Côte-Nord. C'est leur milieu de vie. Nous permettons aux personnes âgées de vivre à leur rythme, de se lever ou de se coucher à l'heure qui leur convient, par exemple, ajoute Madame Benoît. Le 6 Côte-Nord injecte les fonds pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées. Pourtant, il anticipe un déficit de 7 millions de dollars pour l'année en cours. Le conseil d'administration a approuvé mercredi une série de mesures pour le retour à l'équilibre budgétaire, mais maintient la priorité à la clientèle âgée. C'était d'après un texte de Jean Saint-Pierre. Sur le site de d'ici Radio-Canada, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on apprend que des Saguenayens en fauteuil roulant veulent faire partie de l'équipe d'athlétisme Canada. Ils sont trois jeunes fauteuils. Ils s'entraînent en athlétisme depuis quelques mois en vue de faire le camp de développement de talents paralympiques d'athlétisme Canada. Une nouvelle équipe d'athlétisme a été mise en place d'ailleurs à l'Université du Québec à Chicoutimi pour les aider à se développer. En raison d'une lésion à la moelle épinière à la suite d'un accident, Claudia, Samuel et Nicolas ont dû réapprendre beaucoup de choses. Ils ont tous perdu l'usage de leurs jambes. Eh bien, leur persévérance et leur combativité ont mené les trois sportifs âgés dans la vingtaine à former la toute première équipe régionale d'athlétisme en fauteuil roulant, celle des Inuks de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il faut noter que les trois jeunes étaient tous des sportifs avant cet accident qui a changé leur vie. Athlétisme Canada va prêter aux trois athlètes des fauteuils d'entraînement adaptés aux différentes épreuves. Ça va nous dépanner pendant une certaine période, mais éventuellement, ça va nous prendre des fauteuils qui sont faits sur mesure. C'est sûr qu'on aimerait ça aller chercher les commanditaires, croit Samuel Larouche. Même s'ils ne se fixent aucun objectif, les trois athlètes se permettent de rêver, comme par exemple Claudia Duchesne, qui rêve, oui, et qui dit que c'est sûr que dans mes rêves les plus fous, moi, je suis aux Jeux olympiques en 2020, mais c'est sûr qu'on va faire à peine 4 ans. Ça va faire à peine 4 ans que je vais être paraplégique. Mais oui, on est tous les trois à Tokyo en 2020, rêve Claudia Duchesne. Si tout va bien, je pense que je devrais être en mesure de pouvoir parler avec Lucie Côté, qui est membre du comité de sensibilisation du RAM, sensibilisation à la semaine de la canne blanche. Bonjour, Madame Côté.
Bonjour, Madame.
Alors, la semaine de la canne blanche, du 7 au 13 février, autrement dit, ça commence demain, si je ne m'abuse, ou c'est déjà commencé? Attendez, on est quel jour déjà? C'est lundi pour tout le monde. Hein?
Oui, ça commence le 5 jusqu'au 11.
D'accord, donc du 5 au 11, donc on est déjà dedans. Madame Côté, quel est l'objectif de cette semaine?
En fait, l'objectif de cette semaine est pour sensibiliser les gens. À savoir, bon, je donne comme exemple, si vous voulez aider quelqu'un, on suggère, bon, de toucher la main ou l'épaule, bon, et mm-hmm. bonjour madame, monsieur, je m'appelle un tel, est-ce que je peux vous aider?
Mm-hmm.
Mais prendre la canne blanche dans ses mains pour essayer de nous diriger, c'est pas vraiment une bonne idée, parce qu'à ce moment-là, on perd de notre orientation. Mm-hmm. Mais si on présente notre coude à la personne, mm-hmm. eh bien, la personne saisit le coude et voilà, vous êtes comme un pas et demi devant nous, et on peut plus facilement.
Bien sûr. Bien sûr. Autrement dit, ce que vous nous dites, Madame Côté, c'est que cette semaine de la canne blanche va nous permettre à nous, voyants, d'être un peu plus sensibilisés à la réalité du non-voyant et savoir quoi faire lorsque nous sommes en présence d'une personne aveugle ou semi-aveugle. C'est bien cela?
C'est bien cela.
Alors, qu'est-ce que vous avez justement comme conseil à nous proposer en dehors de celui très judicieux que vous nous avez déjà donné?
Oh, bien, de ne pas hésiter à offrir l'aide,
ouais.
D'y aller gentiment. Puis, c'est sûr que c'est pas tous les non-voyants qui sont disposés à recevoir de l'aide, comme toute personne d'ailleurs, mais quand on l'a.
Mais oui.
Qu'on l'offre de l'aide ou qu'on, tu sais,
oui.
juste des fois se mettre à notre place.
Oui, oui, oui.
C'est quand même gentil, voyez-vous.
Oui, je comprends. Est-ce que vous êtes vous-même non-voyante, hein? C'est ce que je comprends, Madame Côté?
Je suis non-voyante de naissance.
De naissance.
Et puis, ça ne m'a jamais empêchée de fonctionner.
Mm-hmm.
Je connais, bon, on me dit... Je veux dire, mettons, je veux mettre ma robe rose. Mm-hmm. Je sais que ma robe rose et ma jupe noire, ils n'ont pas le même tissu. Alors, ça m'indique que je peux porter telle chemise, telle jupe, telle robe. Tout est, chaque tissu est différent. Oui. Alors, je peux m'habiller comme je veux. je me perfectionne dans l'art. Alors, je veux peinturer telle couleur. Eh bien, on va m'aider, on va me donner la couleur, puis on va
vous
peindre.
Vous peignez, Madame Côté?
Non, je le fais faire.
Ah!
Ça va mieux. Mais quand même, quand j'étais petite, je disais, maman, je veux du vert. Elle me disait, maman, bon, tu veux du vert, pourquoi? Faire quoi? Okay. Le gazon, le sapin? Alors là, je comprenais que c'était pas le même vert. C'est continuer à parler, comme d'habitude, vous parlez à un voyant. Un non-voyant, on fait partie du même monde.
Mais oui. Mais d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ici, même à la radio, on parle souvent d'art visuel. Parce que c'est évident. Vous savez qu'en ce moment, il y a l'exposition Chagall à Montréal, là, dont tout le monde parle. Et vous savez qu'il y a des visites guidées pour les non-voyants?
J'ai entendu parler un peu,
oui.
J'ai pas...
C'est Madame Trudeau qui a... Mais oui, en tout cas, peut. Il paraît que c'est vraiment une très, très bonne expérience. Quelles seront toutes les actions qui vont être posées cette semaine, Madame Côté, dans le cadre de la semaine de la canne blanche?
Bon, aujourd'hui... c'était de 11h30 à 13h30.
Oui.
Je crois que c'est au complexe des jardins. On distribuait des feuillets pour
expliquer, sensibiliser, d'accord.
C'est ça. Et puis ensuite de ça, mercredi, c'est à Berry-UQAM qu'on fait la même sensibilisation.
Mm-hmm. D'accord.
Ensuite, ce soir et demain. Pour moi et quelques membres, on va dans le public de l'émission En mode salvaille.
Ah oui? OK.
Alors, j'ai bien hâte de voir. Je ne sais pas si on va être filmé, mais je sais que notre présence va être dans le public de En mode salvaille pour aujourd'hui et demain.
Oui, puis ça, c'est très écouté, hein?
oui, mais moi, c'est tout nouveau pour moi.
Bon.
Je ne connais pas cette émission-là plus qu'il le faut.
Moi non plus.
Oui, on est sur le même pied d'égalité.
Oui, absolument, c'est pas moi.
Mais on m'a dit que c'était très intéressant. Amis à moi ont été, puis c'était très intéressant. Maintenant, on va voir, on va voir ce que ça va donner.
Bon, écoutez, Madame Côté, va falloir que je vous laisse bientôt, mais je voudrais quand même rapidement, comment peut-on collaborer cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, rester naturel. C'est sûr que... Mon Dieu! Comment on peut nous aider? Ben c'est ça. En restant naturel,
c'est ça,
en offrant notre aide,
D'accord. Non, mais j'ai bien compris. Puis, il faut faire attention parce qu'en même temps, il faut rester discret. Il ne faut pas parler trop fort quand on s'adresse à un non-voyant.
Mais, oui, parce que voyez-vous, on est juste non-voyant. On n'est pas malentendant.
On n'est pas sourd!
c'est vraiment... Puis aussi, quand on je donne un exemple, vous êtes une caissière au magasin, vous pouvez vous adresser à la personne non-voyante, pas à l'accompagnateur. L'accompagnateur, c'est pas lui qui va vous remettre le change.
Non.
C'est le non-voyant qui achète des choses qui va remettre le change.
Mais absolument, Madame Côté.
Alors, c'est vraiment là bien apprécié de s'adresser aux non-voyants, particulièrement comme vous et votre ami.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est la même chose. Eh bien, merci beaucoup, Madame Côté, je vous en prie, de nous avoir rappelé tout ça.
C'est important. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une superbe belle journée à vous et votre équipe.
Oh, ben, à vous aussi, Madame Côté. Puis vous savez, je vous souhaite, vous savez quoi, je vous souhaite un jour d'aller faire Compostelle. Ben oui, parce que je ne sais pas si vous avez écouté l'émission un petit peu plus tôt, mais on parlait de Compostelle et il y a beaucoup, finalement, il y a énormément de non-voyants qui font le chemin aussi.
Ah, oh, c'est bien.
C'est bien, hein?
C'est très bien.
Je suis sûre que vous auriez aimé ça.
Sûrement.
Allez,
moi,
bonne journée.
Fauteuil, alors, il faut que ça soit accessible partout.
Mais les fauteuils aussi,
Merveilleux.
Les fauteuils aussi, Madame Côté. Allez, je vous souhaite une belle journée.
Merci, vous de même.
Au revoir.
Au revoir.
C'est dans Le Devoir ce matin, Michel McQuigg qui écrit de Toronto qu'une loi fédérale sur les personnes handicapées s'attardera au taux d'emploi. La ministre chargée d'élaborer des lois pour améliorer la qualité de vie des personnes vivantes avec un handicap affirme que le taux d'emploi sera un élément clé. La ministre a indiqué que les détails de la loi n'avaient pas encore été établis, mais que les barrières à l'emploi avaient été un thème récurrent dans les 17 séances de consultation menées un peu partout au pays. Madame Qualtrough a dit espérer pouvoir présenter un projet de loi au Parlement d'ici environ un an. La loi, que des militants de défense des droits des handicapés cherchent à obtenir depuis des années, statuerait dans des secteurs de compétences fédérales, notamment du côté des banques et autres services financiers et télécommunications et du transport interprovincial. Madame Qualtrough a affirmé que la loi fédérale devrait être rédigée en complémentarité de lois provinciales existantes. La loi à large portée, qui pourrait s'attarder à une foule d'éléments allant des normes de construction à celles sur les services à la clientèle, a le potentiel d'améliorer les statistiques démontrant de manière persistante un faible taux d'emploi des personnes handicapées, a-t-elle soutenu. Il y a deux ans, les données dévoilées par Statistique Canada révélaient un taux d'emploi pour les Canadiens handicapés de 49 % comparativement à 79 % dans la population dans son ensemble. Également, j'avais pour vous, si j'arrive à retrouver ça, oui, c'est ici, c'est une nouvelle internationale. La Chambre des représentants des États-Unis, à majorité républicaine, a voté jeudi pour annuler une réglementation récente de l'ère Obama qui visait à interdire aux handicapés mentaux de posséder des armes à feu. Les républicains ont entrepris de révoquer plusieurs réglementations administratives adoptées dans les derniers mois de l'administration Obama, comme une loi de 1996 rarement utilisée. Leur en donne le pouvoir. En l'occurrence, le texte réglementaire imposait aux services de la Sécurité sociale de transmettre les noms des bénéficiaires d'allocations considérées comme irresponsables ou handicapés mentaux au fichier central d'interdiction de possession d'armes géré par le FBI. C'est ce fichier que les armuriers doivent impérativement consulter avant de vendre une arme afin de vérifier le casier judiciaire de l'acheteur et s'il a le droit d'en acquérir. Il n'existe aucune preuve que ceux qui reçoivent des allocations pour handicap de l'administration de la Sécurité sociale représentent une menace à l'ordre public, a déclaré l'élu républicain Bob Goodlatte. Les républicains estiment qu'une fois un nom ajouté au fichier NICS, les procédures d'appel sont fastidieuses, ce qui priverait les citoyens concernés de l'exercice de leur droit à posséder une arme, conféré selon eux par le deuxième amendement de la Constitution. Le Sénat doit encore voter pour confirmer cette annulation. Le Congrès, contrôlé par les Républicains, a commencé à révoquer de nombreuses réglementations qu'il considère excessives, notamment sur la pollution des rivières et la corruption à l'étranger. Voilà ce qui met un terme aux paractualités du jour. C'était Clotilde Say qui animait cette émission pour vous. Merci à toute mon équipe et merci à vous qui nous suivez régulièrement. Je vous souhaite une belle journée. À demain, 11h30.